Le grand témoin. Bonjour, avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous présente aujourd'hui Lubunga Biaombe. Il est journaliste, près de 29 ans, je dirais 29 ans de carrière dans ce métier et 20 ans de carrière comme correspondant de la BBC à Kinshasa. Aujourd'hui, Lubunga Biaombe a décidé de mettre fin à sa carrière de journaliste. Il nous donnera les raisons pour lesquelles il a décidé ou il a pris cette décision dans cette émission. Monsieur Lubunga, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Les auditeurs de BBC vont sûrement reconnaître cette voix qui passe sur les ondes ou sur la fréquence de BBC à Kinshasa, où vous passez les reportages en français et en swahili.
C'est exact.
Alors aujourd'hui, vous décidez de mettre fin à votre carrière.
Oui, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de journaliste après 29 ans d'exercice. J'ai commencé par la presse écrite pour terminer par l'audiovisuel comme correspondant de la BBC, comme vous avez dit.
Alors, les détails, c'est tout à l'heure. Avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand ?
Je suis né à Itombwe, c'est dans le sud Kivu, en territoire de Mwenga, le 28 mai 1962. C'était un lundi, à croire mes parents. Et c'est là-bas que j'ai commencé l'école qu'on appelle aujourd'hui maternelle, avant que ne survienne la guerre des moulélistes, comme on disait à l'époque, ce qui a obligé ma famille à déménager vers Bukavu. C'est ainsi que je ferai toutes mes études primaires à l'école protestante de Bagira à Bukavu, avant de faire les humanités secondaires à l'Institut Bouindi, toujours à Bukavu.
Et donc vous avez passé presque le gros de votre enfance à Bukavu, si je comprends bien.
Effectivement, j'ai passé une vingtaine d'années à Bukavu, parce que je suis arrivé quand j'avais l'âge de 4 ans. Et puis toute ma scolarité, comme j'ai dit, ça s'est passé à Bukavu, une ville que j'ai quittée pour venir faire l'ISTI à l'époque, c'était en 1983.
Vous avez grandi dans quelles conditions, Lubunga?
Bon, c'était un peu difficile parce que à l'époque, mon père travaillait comme enseignant. Et au milieu des années 70, il y a eu une grande crise économique dans le pays et les enseignants ont fait un changement brusque de vie. À l'époque, on vivait d'abord bien et puis tout d'un coup, la vie est devenue très, très chère. Et je peux dire que j'ai grandi dans des conditions modestes, mais nous avons persévéré. On est nés dans une famille très nombreuse. Nous sommes nés à 13 et nous avons tenu quand même jusqu'à terminer nos études, plus que nous tous.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant que vous grandissiez?
Le souvenir qui m'a le plus marqué pendant que je grandissais, bon, je crois que j'ai beaucoup de très bons souvenirs de ma vie à Bukavu. Et j'ai vu, bon, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, c'est, comme j'ai dit, la vie a commencé à dégringoler subitement. Mais il y a aussi des très bons souvenirs. C'est les souvenirs quand j'allais à la chorale de l'église. Et c'était pas des moments très passionnants pour moi et que j'ai gardé toujours.
Ah, vous avez chanté dans la chorale, d'être choriste.
J'ai été dirigeant d'une chorale à l'église protestante de Bagira, effectivement. Et je peux dire que j'aime beaucoup chanter.
Vous chantez toujours ou bien vous avez arrêté?
Je chante souvent quand je suis à la maison, seul, dans des moments de méditation, je me mets à chanter des chansons en swahili et des chansons religieuses.
Lubunga Biaombe, est-ce que votre nom a une signification particulière?
Lubunga, c'est le nom de mon grand-père maternel. Ça signifie assemblée, mais chez nous, au village, c'est la case qu'on trouve au milieu du village. Il n'y a que les hommes qui se retrouvent là-bas pour discuter des histoires de la continuité du village. Par contre, Biaombe, ça c'est mon nom qui m'a été donné parce que quelques mois avant ma naissance, ma mère avait été frappée par la foudre et elle a failli perdre sa vie. Ce qui fait que quand je suis né, j'avais une santé très fragile et chaque jour les gens se disaient que cet enfant ne va pas survivre. Alors Ombe, dans notre langue, ça signifie Dieu, et alors on disait que on s'en remet à Dieu. C'est grâce à ce nom là qu'aujourd'hui je suis à ma 53e année et maintenant avec une santé de fer.
Marié?
Je suis marié à Vumili Amunda et Dieu nous a comblés. Nous avons 5 garçons et 4 filles. Ça fait 9 enfants que nous avons avec elle.
Une grande famille quand même, un peu votre famille à vous.
C'est exact, c'est une grande famille et nous essayons de lutter dans ces conditions qui ne sont pas très très faciles.
C'est quoi votre plat préféré, Lubunga?
Moi je mange tout ce que je vois et je peux dire qu'il y a seulement des choses que je ne mange pas comme les haricots et les chenilles.
Alors que c'est la nourriture préférée du Sud Kivu, moi que je me trompe, hein?
Oui.
Les haricots.
Beaucoup de gens au Sud Kivu et au Nord Kivu mangent les haricots. Il y en a qui en mangent pratiquement tous les jours. Mais là où, dans mon milieu d'origine, on mange le foufou, donc l'ougali, chaque jour, et essentiellement avec du poisson. Mais moi, je ne mange pas les haricots, je ne mange pas les chenilles. Je ne sais pas exactement pourquoi.
Mais tous les restes, vous mangez?
Je mange tout ce que je vois.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
C'est que je n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup les choses qui me font rire. J'aime toujours vivre dans une compagnie où on est en train de raconter des histoires pour rire. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'occasion de savoir qu'il y a des choses que je n'aime pas.
Vous dites que vous avez quitté votre village, c'est déjà quoi?
Itombwe.
Itombwe, pendant la guerre, hein, quand la guerre mouléliste a commencé. Vous aviez quel âge? À peine 3 ans? 4 ans?
Effectivement, j'avais 4 ans et c'est là-bas qu'il y a une sorte d'ironie de l'histoire parce que l'homme qui menait la guerre à cette époque-là dans notre contrée, c'était Laurent Désiré Kabila. Et je me souviens très bien que nos villages étaient souvent attaqués par des moulélistes qui venaient incendier les cases et on devait aller passer des journées, des nuits entières dans la forêt, se cacher sous les arbres, parfois même en période d'intempéries, et ce n'était pas très très facile, parfois même faire des grandes distances à pied, de sorte que nous sommes venus trouver refuge à Bukavu.
Comment vous avez vécu ces moments-là? C'est vrai que vous étiez encore enfant, mais est-ce que vous avez gardé une... Quelle image vous avez gardé de ce moment-là?
Oui, oui, je me souviens comme si c'était hier, parce que... vous savez que nous, là, chez nous, dans la forêt, parce que c'est une très grande forêt, on savait déjà, tout petit qu'on était, on savait distinguer même les bruits des fusils, on savait que ça c'est Fall, ça c'est Moser. On nous avait habitué ça que chaque fois que vous entendez un avion survoler le territoire, vous devez vous mettre à l'abri parce qu'il y avait aussi l'armée nationale congolaise qui bombardait les villages pour essayer de mettre en déroute les rebelles. Donc ce sont des souvenirs qui sont restés indélébiles dans ma tête, de façon que chaque fois que j'entends parler de la guerre qui se poursuit dans la partie est de la RDC, je me mets à la place de ces gens-là qui sont obligés de fuir leur village, les gens-là qui sont en train de d'errer pratiquement dans la forêt. Et même cette histoire des violences sexuelles, je me souviens très bien qu'à l'époque, quand il y avait soit les militaires de l'ANC, soit les rebelles qui arrivaient dans un village, la première chose qu'on faisait, c'était d'abord de faire fuir toutes les jeunes filles parce qu'ils ne choisissaient pas et les violences avaient déjà commencé à cette époque.
Mais ça n'avait pas la même ampleur qu'aujourd'hui quand même. Ou bien parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, c'était un sujet tabou.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est la médiatisation de ces phénomènes. Mais j'ajoute aussi qu'il y a une tendance aussi à... Je peux dire à l'exagération parce que ces jours-ci, quand vous allez à Bukavu, Uvira, Fizi, toutes les ONG là, non, c'est pour encadrer les femmes violées. Alors, on est obligé chacun d'aller chercher des femmes violées pour gonfler et essayer de recevoir des subventions venant de l'extérieur.
Bunga Dia Umbe, en 83, vous quittez Bukavu pour Kinshasa.
J'ai quitté Bukavu. C'était au mois d'août 1983, c'est aussi un souvenir qui m'a toujours marqué. C'était la première fois que j'approchais un avion, j'ai pris place à bord d'un avion DC-10 à Goma et je suis arrivé ici à Kinshasa, c'était le 13 août 1983 pour passer un test d'admission à l'ISTI le 14 août. Donc je n'avais que 3 jours de préparation et quand je suis arrivé, d'abord très complexé de voir la ville elle-même, la capitale du pays, et puis voir les collègues qui se préparaient aussi à ce concours, moi qui n'avais pas accès à la télévision d'abord à Bukavu, et je me suis dit, est-ce que j'allais réussir par rapport à ces gens-là? On était au nombre, je crois, de 300, et il fallait sélectionner une cinquantaine, et
Vous avez passé les tests, vous vous êtes retrouvé parmi les 50 étudiants retenus.
Effectivement, je me suis retrouvé parmi les 50 étudiants retenus et c'est comme ça que j'ai fait mon cycle de graduat puis la licence à l'ISTE.
Pourquoi avoir choisi le journalisme?
Je peux dire que je n'ai pas choisi le journalisme, mais depuis mon enfance, je savais que je serais journaliste. Et ça, ça me revient toujours parce que je me souviens, chaque fois j'étais collé à la radio, j'écoutais la radio tous les jours et c'est moi qui informais la famille des grands événements qui se passaient à travers le monde et à travers le pays. Je me souviens très bien que c'est moi qui avais annoncé à tous les habitants de mon quartier la mort de la femme du président Mobutu que j'avais suivi à la radio avant, un communiqué qui était lu par le doyen du bureau politique Iléo. Alors cette envie là d'informer les gens, de mettre tout le monde au courant de ce qui se passe, je garde ça depuis mon enfance. Donc je ne suis pas devenu journaliste, mais je suis toujours journaliste.
Alors bon, vos parents ils vous ont encouragé, allez-y, ils vous ont encouragé dans votre choix?
Oui, mon père il m'a encouragé dans ce choix, mais il y avait aussi une autre voie. Je pensais aussi un jour devenir pasteur. Je me disais que si je ne fais pas le journalisme, je pouvais faire la théologie. Mais l'envie du journalisme était beaucoup plus forte. C'est comme ça que j'ai fait ce travail-là.
Vous arrivez à Kinshasa en 83. La première impression, c'était de voir une si grande ville.
Un détail important, toujours en rapport avec à votre question précédente. Quand j'étais à l'école secondaire, j'étais l'animateur principal du journal École, qui s'appelait Bwindi. Et donc, toutes les informations que moi j'ai récoltées, surtout à la radio, je mettais ça par écrit, on écrivait notre journal à la main et on affichait sur des valves à l'école. Et je me souviens très bien qu'à cette époque déjà, nous avions un caricaturiste qui avait l'habitude de signer à Mapon.
Alors, je disais vos premières impressions lorsque vous arrivez à Kinshasa.
Quand j'arrive à Kinshasa, la première chose qui m'a marqué, c'était l'immensité de la ville, mais aussi la grande saleté dans la ville. C'était à l'époque...
En 1983,
c'était en période de saison sèche. Il y avait beaucoup de mangues qui traînaient à gauche à droite et beaucoup de mouches. Une idée que je ne pouvais pas m'imaginer au village où j'étais, que la ville pouvait être aussi sale.
83, Kinshasa était déjà sale.
Vous êtes frappé quand vous venez de l'intérieur du pays, vous avez une image de Kinshasa et dès que vous arrivez ici, ce genre de détail ne peut pas passer inaperçu et ça me donnait même quelquefois l'envie de rentrer chez moi. Je me disais comment je peux supporter autant de mouches dans la capitale.
Vous avez fini par supporter?
J'ai fini par m'habituer, j'ai fini par aimer la ville, j'ai fini par aimer les habitants de Kinshasa.
Alors, vous passez 5 années à l'ISTE, aujourd'hui FACIC.
Oui, je suis entré à l'ISTE à l'époque du professeur Malembe Tamandiak. Nous étions à 85 en première année de graduat. C'est la 11e promotion de l'ISTE et j'ai fait d'abord le graduat. Après, j'ai continué ma licence. Mais déjà en deuxième année du graduat, j'écrirai à l'éditeur du journal Joua, un journal qui paraissait à Bukavu, Monsieur Mutiri Wabashara, il est aujourd'hui ministre du Tourisme, pour demander si je pouvais être correspondant de son journal ici à Kinshasa. Et c'est un monsieur très élégant, il m'a répondu favorablement et rapidement. C'est ce qui a permis que tout le temps que je faisais mes études, je travaillais en même temps et j'étais bien payé, ce qui m'a aidé à supporter mes études.
Donc c'est le premier organe de presse dans lequel vous avez travaillé.
Et c'est mon tout premier patron dans la vie.
Mm-hmm. Après Joua, vous avez travaillé à...
Après le journal Joua, nous avons créé avec des amis un journal qui s'appelait La Semaine du Reporter. C'était sous le gouvernement du Premier ministre Birindwa. On a fait La Semaine du Reporter. J'ai fait là-bas, 2 ans avant de créer Kinpotin avec Chantal Kanyimbo. Et c'est un petit journal qui donnait de la bonne humeur, surtout le week-end, parce qu'on racontait tous les potins de la ville, et ce journal était très apprécié dans certains milieux.
Mais qui n'a pas pu survivre.
Comme directeur de Kin Potin, j'ai eu droit à deux procès, et un séjour de 7 jours à Makala. Alors, quand il y a eu le changement de régime, et tout ce qui se racontait autour, les emprisonnements, les exécutions, nous nous sommes dit que si, déjà sous Mobutu, on avait fait la prison, avec le régime qui venait, les Kadogo, ainsi de suite, peut-être que ça pouvait être pire. On a décidé de ranger nos plumes et de faire autre chose.
C'était quoi le motif de votre arrestation? Vous avez caricaturé qui? Une autorité?
J'ai eu droit à deux procès. Le premier, c'est parce que on avait écrit dans le journal que Modeste Bahati s'est fait appeler partout professeur, et j'insiste sur le fait qu'à l'époque il ne l'était pas encore. Aujourd'hui je reconnais qu'il est professeur d'université, et nous on avait dit que non, il faut qu'on l'appelle soit chef des travaux, soit assistant. Et il avait mal pris la chose, il nous a amené en justice, on a fait un procès, mais finalement, comme on est des frères, on a fini par trouver un arrangement à l'amiable. La deuxième fois, c'était un ministre qui s'appelait Jibingoy, et qui nous avait aussi intenté un procès parce qu'on avait dénoncé une fraude qu'il organisait au niveau du Beach Ngobila. Jibingoy qui avait senti qu'il avait été lésé par nos écrits, et c'est ça qui nous a amené jusqu'à la prison de Makala.
Vous avez passé 7 jours. Hein?
J'ai passé effectivement 7 jours à Makala et 3 jours au cachot de la Gombe.
Ça ressemble à quoi la vie dans la prison, dans une prison?
C'était amusant pour moi parce que quand je suis arrivé, on m'a mis dans la cellule qui venait d'être libérée le jour même par Antoine Gizenga. Alors tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'amusait beaucoup. Et puis j'ai vu que non, c'est toute une autre vie là-bas en prison. Tu rencontres les gens, tu rencontres des prisonniers qui sont là-bas, des condamnés à mort qui sont là depuis des années. Et ils te racontent leur expérience, comment ils sont en train de vivre dans le couloir de la mort.
Et à quel moment, Lubunga Biaroumbe, vous rejoignez la BBC?
Je suis entré à la BBC, je peux dire comme par hasard, c'était au début de la guerre du Rwanda, en 1994. Il y avait une correspondante de la BBC ici, et qui dira à des connaissances à moi qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour rendre des informations en Kiswahili, et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à envoyer des papiers au téléphone sur la guerre du Rwanda telle qu'on était en train de la vivre ici à Kinshasa. On voyait à la télévision.
Donc comment... En
1994, quand la guerre a éclaté au Rwanda après l'assassinat du président Habyarimana. Alors j'ai envoyé des papiers au téléphone ici à Kinshasa, et sur base des informations qu'on suivait par exemple à la télévision, on voyait des cadavres joncher la ville de Goma, polluer le lac Kivu par exemple. Et au début, moi je pensais que c'était un loisir parce que les gens m'appelaient du village, on a écouté ta voix à la BBC. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent, quoi. Et c'est beaucoup plus tard qu'on me dira que non, ils ont un chèque pour toutes mes productions, et que je leur donne mon compte bancaire. Je n'en avais pas. J'ai utilisé des gens qui avaient des comptes bancaires, et c'est comme ça que j'ai commencé avec la BBC.
Vous avez commencé comme pigiste. Vous l'avez pas encore signé, vous n'aviez pas encore signé un contrat avec eux lorsque vous avez commencé à rendre vos papiers en swahili pour la BBC.
Oui, de 1994 à 1997, je travaillais seulement comme pigiste. Il m'appelait. Le problème, c'était ennuyeux parce qu'on pouvait t'appeler même à minuit, au moment où tu t'attends le moins, ou bien tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler au téléphone. Ils te disent de leur dire, de décrire ce qui s'est passé, que ce soit ici, que ce soit dans l'est du pays. En 97, au mois d'octobre, c'est alors que j'ai signé mon tout premier contrat. On avait passé un concours à l'ambassade de Grande-Bretagne ici, et on était, je crois, à 6. On avait publié les candidatures dans Jeune Afrique et dans quelques journaux. Et moi, j'ai été retenu pour passer le test oral. Je suis allé le passer à Kampala et puis à Kigali. C'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat.
Mais entre Kin Potin et la BBC, vous avez travaillé dans un autre organe de presse?
Pendant qu'on faisait Kin Potin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec, avec la BBC.
Ok. Ouais. Et donc,
j'ai combiné les deux pendant quelques mois.
BBC.
Oui, de sorte que la couverture de la guerre, de 96-97, je faisais déjà des correspondances régulièrement à la BBC. Alors, quand il y a eu le changement de régime ici en mai 97, quelques mois après, c'est alors qu'au mois d'octobre, je suis allé signer le contrat. Et là-bas, j'ai commencé à faire exclusivement la BBC. C'était devenu ça mon métier et c'est ça qui me payait.
20 ans.
J'ai fait 20 ans, effectivement, de 1994 à 2014, au mois d'octobre. C'est comme ça que j'ai trouvé que ça, c'était suffisant pour moi et qu'il était temps que j'abandonne et que je me repose.
Alors, on va en parler. Vous avez décidé de mettre fin à votre carrière de journaliste. On en parle tout à l'heure. Mais quel bon souvenir vous gardez de ce métier, Lobunga?
D'une manière générale, le bon souvenir que je garde du métier de journaliste, c'est que j'ai eu l'occasion de participer directement à des grands événements de ce pays. Je peux juste citer quelques exemples. Le discours du président Mobutu en Sélé le 24 avril 90, quand il a annoncé la démocratisation du pays, j'étais dans la salle. Quand le président est allé à Goma, où il a vécu, je crois, pendant 6 mois, il avait fait venir des journalistes et j'étais du groupe. C'était la première fois que j'approchais, que je touchais pratiquement le président Mobutu, quelqu'un que je connaissais déjà depuis l'enfance, le seul président que beaucoup d'entre nous ont connu, le seul comme président. J'ai même eu l'occasion de lui poser la question. Les rumeurs qui circulaient selon lesquelles l'Ouganda s'apprêtait à rejoindre la communauté économique des pays des Grands Lacs. Alors, ça c'est parmi des grands souvenirs, donc participer aux grands événements du pays. Et je crois que quand nous étions à l'ISTI, quand on entrait, on nous disait que non, le journalisme ne nourrit pas son homme, mais moi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai eu dans la vie, c'est grâce au
journalisme que vous avez fait.
Exactement.
Alors là, ce sont des bons souvenirs que vous gardez de ce métier. Alors on va aller du côté mauvais souvenir.
Le mauvais souvenir, je peux dire, peut-être cette arrestation à Makala. Les jours les plus durs, c'était quand j'étais au cachot de la Gombe. Je peux citer ça. Peut-être c'est le seul mauvais souvenir que je peux énumérer dans ma carrière de journaliste.
Donc pendant 29 ans, vous ne gardez que des images, des très bons
des
souvenirs.
Très bons souvenirs, beaucoup de voyages. Je crois avoir été pratiquement dans une vingtaine de pays. J'ai été dans toutes les provinces du Congo, donc je connais presque en détail chaque ville importante de notre pays. Je connais beaucoup, tous les pays voisins et j'ai fait la connaissance de beaucoup de gens, que ce soit des grandes personnalités, que ce soit des gens modestes comme moi. En tout cas, tout ça, ce sont des souvenirs que l'on ne peut jamais oublier.
C'est un métier passionnant.
Très, très passionnant parce que tu travailles parfois sous pression, mais dès que tu as fini par produire le résultat, tu es toi-même satisfait, que ce soit le journal, parce qu'à l'époque, nous, on faisait le journal, on devait terminer l'écriture, la correction, tout, aux environs de minuit, 1 heure, et aller à l'imprimerie. Le matin, quand vous voyez le journal sortir, c'est vraiment un véritable soulagement. Un produit, vous voyez, c'est sorti de vos têtes. Comment vous avez souffert, et pour chercher l'information, et pour coucher l'information, et quand vous sortez le premier papier de l'imprimerie, vous vous sentez vraiment soulagé.
Alors on va souffler un peu, Lobunga Diaombe.
Oui.
Comment vous vous détendez? Comment vous passez vos moments de détente?
J'aime beaucoup écouter la musique. Je crois que parfois je médite souvent sur le sort de l'humanité en écoutant, par exemple, la musique de Cimaro. Ça, j'aime beaucoup et c'est comme ça que je me détends.
Méditant sur... vous dites, ça vous aide à méditer sur...
Sur l'avenir de l'humanité. Donc, où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons ici sur Terre? Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas les autres? Pourquoi certains nous quittent avant? Pourquoi ainsi? Tout ça, ce sont des questions qui me taraudent et parfois, je me mets à réfléchir.
Mm-hmm. Quelle chanson, par exemple, de Cimaro?
Mabélé.
Ah, Mabélé, oui. Ça, c'est vrai.
Oui, j'aime beaucoup la chanson Mabélé. Dernièrement, j'ai suivi à la télévision l'auteur lui-même. Il expliquait dans quelles circonstances il a composé cette chanson. Il a vu un couple avec un enfant qui était malade. Lui, il sortait de l'ambiance. Lui, il était joyeux et ceux-là étaient en train de souffrir à cause de leur enfant qui était malade. Et puis l'enfant a rendu l'âme, je crois, dans sa voiture parce qu'il les a aidés à aller à l'hôpital. Et vous voyez le contraste de la vie Basoussou, Navi Sengo, Basoussou Lama.
Lama, ouais. Voilà, on va demander à Dieudonné Nyangasa, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous balancer la chanson Mabélé de Lutumba Simaro pour le plaisir de notre invité qui est avec nous dans ce studio, Lubunga Biaombe, journaliste, mais qui a décidé, après 29 ans de carrière, de mettre fin à ce métier. Et aussi pour le plaisir de tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Moya aye balo pela yesango. Bamba na bako sepela basi kanatiki. Ma famille bako sepela biloko kanatiki. Dine mi bako lomba abusa kalofundu. Ebebe asusu matanga. Nalanga ngebo, nalanga matanga.
Merci de donner Nyangasea pour cette belle mélodie de Lutumba Simaro.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Lubunga Diaombé, journaliste, 29 ans de carrière dans ce métier, 20 ans de carrière comme journaliste à BBC Afrique. Aujourd'hui, il a décidé de mettre fin à sa carrière. Lubunga Diaombé, pourquoi vous avez décidé de mettre fin à votre carrière?
J'ai pris à deux reprises la décision de quitter et le métier et la BBC. La première fois, c'était lors des élections de 2011. Je suis allé me présenter comme candidat aux élections législatives dans le territoire de Fizi. J'étais presque sûr que j'allais remporter les législatives. J'avais écrit à mon éditeur ou à mon responsable direct une lettre de démission, c'est lui qui me conseillera en disant que non, les élections, c'est, on ne sait jamais, mieux vaut demander un congé sans solde, comme ça tu pourras réintégrer après. Effectivement, je n'ai pas pu l'emporter aux élections. Ça m'a donné l'occasion de revenir à la BBC. J'ai repris en 2012, je crois, au mois d'avril, après une longue discussion, parce qu'il y en a qui ont trouvé que, m'étant déjà engagé à la politique, je ne pouvais plus représenter la neutralité de la BBC. Maintenant, la deuxième fois, c'est en 2014, quand j'ai finalement décidé d'abandonner pratiquement, parce que j'estimais que, après 20 ans de carrière à la BBC, après 29 ans comme journaliste, j'ai pensé qu'il était temps de laisser maintenant la place à des jeunes comme vous, parce que moi, je crois avoir déjà accompli ce que j'ai pensé que je pouvais faire.
Est-ce que ce n'est pas pour vous représenter, pour vous présenter une nouvelle fois aux législatives de 2016 qui s'annoncent, qui arrivent?
Si ce n'était que pour ça, j'allais démissionner en 2016. Mais moi,
en 2016, c'est l'année prochaine.
Effectivement. Mais moi, j'ai quitté en 2014.
Pour bien vous préparer, peut-être qu'en 2011, la préparation n'était pas bien faite.
Bon, pour dire la vérité, je n'ai pas fait ce calcul dans ma tête. Je confirme que je serai candidat en 2016, mais je n'ai pas fait, je n'ai pas démissionné en rapport avec cette situation. Je pouvais même garder mon poste pour que les gens continuent à écouter ma voix et ça pouvait peut-être aussi m'ajouter un plus. Mais si j'ai décidé de quitter, c'est parce que je m'occupe actuellement des œuvres, je peux dire, humanitaires. Il y a un hôpital que nous avons construit dans le territoire de Fizi, à 18 km de Ouvira, dans la localité de Makobola, là où il y avait eu un massacre,
oui, massacre
en 99. Et je consacre maintenant le plus clair de mon temps à cet hôpital et à d'autres œuvres humanitaires.
Vous avez une grande expérience dans le journalisme. Pour ces jeunes, ces personnes qui veulent faire, qui veulent devenir journalistes, qui veulent faire comme vous, Lubunga, belle voix qu'on suivait sur BBC. Aujourd'hui, on ne va pas suivre cette voix. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes-là? C'est quoi le secret pour devenir un bon journaliste?
C'est la première fois d'abord que j'entends quelqu'un me dire que j'ai une belle voix. Alors, je ne peux que dire merci. Et le journalisme tel que nous l'avons pratiqué, surtout à mes débuts, et tel que ça se pratique aujourd'hui, moi je sens qu'il y a une très grande différence. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est le journaliste qui se met d'abord lui-même en valeur, en vedette, au détriment de l'information qu'il devait donner au public. Et moi, je crois que c'est très très différent, de sorte que je n'ai pas beaucoup de conseils, moi, de la vieille époque, à donner aux jeunes qui sont en train de pratiquer un journalisme avec beaucoup plus de moyens que nous. Je disais tout à l'heure que les tout premiers papiers que j'envoyais à la BBC, c'était au téléphone. Tu pouvais fermer même un magazine de 5 minutes, tu es obligé de coller la radiocassette au téléphone pour envoyer ça à Londres. Parfois, tu envoies une cassette par la poste, elle peut arriver là-bas 3 semaines après, heureusement que c'était un magazine. Mais aujourd'hui, tout est devenu instantané et le journalisme est en train de prendre de la vitesse au rythme de l'évolution de la technologie.
Et tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, on constate que le journaliste s'est mis plus en valeur que l'information qu'il doit donner.
Effectivement, c'est ce qu'on remarque. Bon, je n'ai jamais fait la télévision, mais on le remarque surtout dans les chaînes de télévision. Je crois que ce n'est pas seulement dans notre pays où le journaliste passe beaucoup plus de temps à parler d'abord de lui-même, alors que l'auditeur ou le téléspectateur attendait d'abord l'information. Qu'est-ce que le journaliste là a de nouveau à me dire? C'est très très différent par rapport à ce que nous on faisait quand nous étions jeunes.
Mais donc vous estimez que vous n'avez pas de conseils à donner à ces jeunes?
Je ne suis pas bien placé pour donner des conseils parce que moi-même,
en
je ne maîtrise
qu'aîné.
Plus. En tant qu'aîné, j'encourage beaucoup de gens à faire le journalisme. Mon fils aîné, il est en train de faire l'ISTI et je l'encourage aussi à suivre cette voie-là parce que c'est un bon métier. D'abord passionnant parce que tu es là pour informer les gens et ne pas y aller avec l'idée que qu'on me voit à la télévision, qu'on dise que je suis bien habillé, qu'on dise que je suis... Non, je crois que c'est difficile de donner des conseils. Moi, je suis très, très mal placé. Je crois que vraiment, il y a une très grande différence d'époque. Et ce qui se passe aujourd'hui, si moi je commence à dire que non, je donne des conseils, ça va paraître comme si... D'abord, c'est du dépassé. Je reconnais que nous, notre époque est dépassée. Et ça risque de paraître comme si c'était un complexe, alors que moi, tel que j'ai exercé dans des conditions très très difficiles, je crois avoir accompli ma mission avec beaucoup de satisfaction et c'est sur tous les plans, que ce soit matériel ou moral.
Le micro ne va pas vous manquer?
Le micro ne peut pas me manquer parce que vous voyez déjà là, je suis devant un micro.
Et... Là, c'est moi qui vous reçois.
Et c'est là la grande difficulté, effectivement. Quand on est journaliste, c'est nous qui posons toujours les questions. Maintenant, quand on se retrouve dans l'autre position ici, c'est parfois très, 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 très difficile. Mm-hmm. Ouais.
Je sens ça avec vous, quoi.
Je crois que même dans ma position actuelle, même vous, si on se mettait à vous poser des questions, vous allez voir que c'est très compliqué. Nous sommes habitués, nous, à poser des questions aux autres et pas à répondre aux questions.
Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien, Lubunga Derumbe. C'était un plaisir, un grand plaisir en tout cas, de vous recevoir dans cette émission. Peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
Je remercie d'abord Radio Okapi et vous personnellement pour m'avoir invité, parce que depuis mon départ de la BBC, bon, les gens qui ont mes contacts téléphoniques, il y en a qui m'appellent pour savoir qu'est-ce que je suis devenu, pourquoi ils ne me suivent plus à la radio. C'est une occasion qu'ils ont de savoir que je suis encore vivant et que j'ai quitté le métier de journaliste. Je peux aussi dire que je vous remercie de cette occasion, parce que la Radio Okapi, c'est quand même, je crois que c'est la seule radio qui est suivie pratiquement à travers toute la République. Et moi, je pense que vous avez le devoir de promouvoir des messages de paix, des messages dans le sens du développement de ce pays qui est resté trop longtemps à l'arrière-plan par rapport aux autres pays.
Merci beaucoup, Lubunga. Bon dimanche chez vous.
Merci beaucoup, madame. Et une fois de plus, je vous remercie.
Merci. Le grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Lubunga Derumbe, journaliste, 29 ans de carrière dans ce métier, 20 ans de carrière comme correspondant de BBC à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il a décidé d'arrêter avec ce métier. Il vous a expliqué dans cette émission le pourquoi. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son micro, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.